Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de café, le balado de LNH.com. Nicolas Ducharme au micro, je vous parle en ce 18 décembre. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous préparez pour le temps des fêtes qui s'en vient, les vacances. Je pense que vous avez de prévu le magasinage aussi. Aujourd'hui à l'émission, ben justement, on va parler de la bonne vieille tradition du temps des fêtes, le championnat mondial de hockey junior. Un épisode qui va être entièrement dédié à ce grand événement qui réunit les meilleurs joueurs de moins de 20 ans de la planète. Donc, on prend une petite pause d'actualité de la Ligue nationale de hockey. Ce qui se passe, là, entre autres, là, c'est pas qu'elle manque l'actualité. Là, on regarde ce qui se passe du côté de New York, du côté de Buffalo aussi. Les Sabres qui étaient à Montréal, d'ailleurs, hier, qui ont subi une autre défaite. Mais non, on parle pas de hockey de la Ligue nationale aujourd'hui. Championnat mondial de hockey junior. On se tourne vers le futur. Donc, ça commence le 26 décembre du côté d'Ottawa. Les matchs qui vont être disputés au Centre Canadian Tire et au TD Place, à la place TD, même, je devrais dire en français, qui va accueillir les matchs du groupe B, les matchs du groupe A, donc les États-Unis, le Canada, entre autres, du côté du Centre Canadian Tire. Donc, c'est ça aujourd'hui à l'émission. Je vais parler de ça avec Guillaume Lepage et avec Jonathan Fillon qui vont se joindre à moi durant l'épisode. Avant de commencer, ben, je vous invite, si vous nous écoutez sur le site de LNH.com, sachez qu'on est disponible sur toutes les plateformes de diffusion qui peuvent exister. En particulier Apple, Spotify, YouTube aussi, on est là-dessus. Donc, si vous êtes en déplacement hein, durant le temps des fêtes, le 24-25, peut-être que si vous cherchez quelque chose à écouter dans la voiture, ben utilisez votre téléphone et vous allez pouvoir écouter notre aperçu du championnat mondial junior. Suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux, LNH sur Facebook, LNH barre de soulignement FR sur X, sur Instagram, sur Threads et LNH barre tiret plutôt, LNH tiret FR sur Blue Sky pour être certain de ne rien rater dans les prochains jours parce que justement, on va avoir du contenu en direct d'Ottawa sur le championnat mondial junior. On se lance dans le vif du sujet pour parler de ce qui attend Équipe Canada. On le sait, chaque année du côté du Canada, c'est là ou rien d'autre, c'est l'objectif. Est-ce que c'est possible cette année? C'est ce qu'on va savoir avec mon premier invité, vous le connaissez, Guillaume Lepage. Salut Guillaume!
Salut Nick!
Comment tu vas?
Ça va bien. Ma voix est après la soirée karaoké des journalistes du beat du Canadien. Ma voix se porte bien. C'est seulement deux chansons hier.
On a vu certaines personnes sortir de certains karaokés plus amochés que ça, là, que
ouais,
tu es ce matin.
Effectivement.
Ouais. Écoute, Guillaume, je sais pas, on est quand même un peu d'avance cette année. On a enregistré ça plus tard que ça, plus vers le 20-21 d'habitude. On est 18, je ne sais pas si tes valises sont prêtes, mais tu en as l'habitude. C'est ton combientième championnat du monde, championnat mondial junior que tu couvres là?
Je pense que c'est le sixième ou septième en personne, mais il y a aussi eu l'année de la bulle à Edmonton, ouais, où on faisait ça par Zoom. Une année que j'aimerais mieux oublier, mais si je me souviens bien, je crois que le Canada l'avait emporté.
Il me semble que oui.
C'était les États-Unis, je pense. Ouais, les États-Unis dans la bulle en finale contre le Canada. Si ma mémoire est bonne. Mais okay. Tu vois, c'est les mondiales juniors où je suis pas présent, on dirait que c'est moins gravé dans ma mémoire. Là, mais,
un peu normal aussi. Là.
Exact. Ouais, mais ça va être la septième, ça va être le premier où je vais avoir besoin d'une voiture pour me déplacer. Parce que on le sait, l'aréna à Ottawa est à Kanata, donc à 30-40 minutes du centre-ville d'Ottawa. Donc on va passer ces deux semaines-là là, probablement sur la route entre l'hôtel et l'aréna. Donc ça va être différent, mais ça va être au Canada, ça va être à Ottawa. On sait en 2009, le tournoi, ça a marqué les esprits.
Ouais,
puis j'ai vraiment hâte de voir l'énergie, la foule, en tout cas l'engouement pour les billets pour les matchs du Canada est assez présent. Là, donc ça devrait être assez bon.
Ouais, 2009, le fameux but de Jordan Eberle en demi-finale pour se créer l'égalité à ce moment-là. Puis
et personne ne se souvient de tout le reste, à part qu'il a fait que le Canada a gagné la médaille d'or.
Oui, c'est ça. Oui, parce que c'était pas la finale. C'était la demi-finale, exact, contre les Russes et par la suite en finale contre...
La Suède, je crois, mais c'est parce qu'on en a parlé la semaine passée au camp de sélection, là, mais sinon, il aurait fallu que je cherche. Là.
Ben, c'est pas pour être méchant, mais la Suède qui perd en finale, on en a l'habitude. Hein. C'est thématique à chaque année pour la Suède. Là. C'est quoi? C'est deux championnats, je crois?
Faudrait que je vérifie, mais non, cas, c'est pas beaucoup. Comparativement à leur série de succès en ronde préliminaire, là, c'est un très faible pourcentage.
Oui, exactement. Hey, on se lance, Guillaume, dans équipe Canada. On parle de médaille d'or, mais l'année dernière, ça n'en a pas été une. Élimination, on termine en cinquième place du tournoi. Éliminé par la Tchéquie en quart de finale. Ça laisse toujours des traces sur une organisation, même si on a gagné l'or les années précédentes. Puis même, je me souviens, on sait qu'on est capable de rebondir du côté du Canada. Souviens-toi l'année que le bâton de Maxime Comtois avait brisé. Mm-hmm. Et je pense que par la suite, le Canada avait gagné.
Le bâton de Noah Dobson qui avait brisé.
Noah Dobson, oui, c'est vrai.
Sur une chance en or en prolongation, puis la Finlande avait marqué par la suite à l'autre bout de la patinoire.
Je me suis trompé. C'est Comtois, je pense qu'il avait raté une opportunité ou quelque chose.
Exact.
Comme ça.
Tu sais, de barrage.
Ah, c'est ça, exactement. Exactement. Donc, mais tu sais, par la suite, on a gagné des médailles d'or. Habituellement, quand le Canada subit une raclée comme ça, on rebondit très fort. Est-ce que ça va être ça cette année? Parce qu'on a effectué des changements importants pour revenir peut-être à ce qu'on était avant, peut-être un peu plus la saveur canadienne de jouer le Mondial Junior. Puis pour ce faire, on a été chercher Dave Cameron, qui est un... Écoute, il a gagné l'or chaque fois que je pense qu'il a dirigé l'équipe Canada. Ça va être sa troisième fois comme entraîneur-chef. Tu peux difficilement aller chercher quelqu'un qui a plus d'expérience qu'un Dave Cameron derrière le banc.
Ouais, puis je pense que Scott Salmon, le directeur des opérations, c'était le message qu'il avait au premier jour du camp de sélection. Il dit dès l'élimination l'an dernier, on s'est mis à analyser les choses pour l'année 2025. Puis Dave Cameron est le nom qui est arrivé tout de suite sur les lèvres de tout le monde. On voulait quelqu'un d'expérience, quelqu'un qui l'avait vécu. L'an dernier, Alan Le Temps, ça n'avait pas été particulièrement... c'était un... Disons un différent style de coaching là, de sa part. Puis c'était un entraîneur recru dans ce poste-là. Donc, c'est peut-être compréhensible. Mais là, on est allé vraiment avec une formule... Formule qu'on connaît du côté de Hockey Canada. L'autre chose qui est intéressante, c'est que l'an dernier, on avait décidé de faire l'impasse sur le défi estival, qui est comme un début de préparation en vue du tournoi où on invite une quarantaine de joueurs, on les fait jouer, puis on essaie de déjà bâtir un peu le squelette de la formation. L'an dernier, je ne sais pas pour quelle raison, on avait fait ça de façon virtuelle. Donc, les joueurs avaient participé à des conférences en ligne sur Zoom. Pas de match, pas d'entraînement, pas de personnel d'entraîneur parce que l'an dernier, on a nommé le personnel d'entraîneur à la mi-octobre. Cette année, on a évité de répéter ces erreurs-là.
Tu regardes quand la façon que les Américains se préparent ou c'est sur plusieurs années avec les mêmes entraîneurs, mm-hmm. les groupes qui suivent avec un bon pourcentage des mêmes joueurs, tu allais complètement en direction opposée à ce moment-là pour le Canada.
Puis je sais même pas pour quelle raison on a décidé de faire ça, parce que l'année précédente, on l'avait fait. Cette année, on revient à cette formule-là. Les entraîneurs ont été nommés au mois de juillet. Donc, tu sais, la base est là. On n'est pas arrivé au camp de sélection. Puis là, c'était le moment de faire connaissance avec tous les joueurs, puis les entraîneurs. Puis là, le message, c'est quoi cette année, tout ça. Je pense que on a réalisé du côté d'Hockey Canada que la préparation avait peut-être pas été optimal l'an dernier. Puis cette année, on est arrivé vraiment avec l'ancienne formule qui a mené à des succès. Donc, du côté de la préparation, là, le travail en amont, je pense qui a été bien fait là, du côté de Hockey Canada.
Parlons de la formation. On sait quand c'est le temps de faire Équipe Canada, on pourrait faire Équipe Canada 2, puis parfois, certaines années, Équipe Canada 3. Nouvelle règle, par contre, cette année, on va avoir 25 joueurs qu'on peut amener avec nous plutôt que c'était 23 dans le passé, même 22.
C'était 22 ou 23 si tu avais 3 gardiens.
Ah bon, vois-tu? Puis dans les dernières années, on allait chercher aussi... on a rappelé aussi incroyable que ça peut être, là, mais rappeler des joueurs du hockey, de la Ligue canadienne de hockey pour venir au secours quand il y avait des blessés.
On va en parler, mais l'an dernier, je ne sais pas si tu te souviens, Jager Furkus qui avait été rappelé justement en Suède à 2 jours d'un match à cause d'une blessure. Le gars est arrivé sur le décalage horaire, on n'était pas certain s'il allait jouer et tout ça. Je pense que c'est une bonne idée du poids que Hockey Canada a dans l'organisation de ce tournoi-là. La nouvelle règle de cette année n'est pas étrangère à ce qui est arrivé l'année dernière.
Oui, exactement. Et le pire, c'est que maintenant, ça se passe au Canada, donc ça aurait été plus facile de se trouver un vol interne, disons-le. Est-ce que tu considères ça, ces 25 joueurs-là, comme un avantage pour une équipe comme le Canada par rapport à des programmes qui n'ont pas cette profondeur-là?
Oui, absolument, parce que ça va amener peut-être une dynamique similaire à une équipe de la Ligue nationale. On le savait qu'avant, on évoluait avec une formation à 13 attaquants, 7 défenseurs. Donc, on avait une option de plus à chaque position. Cette fois-là, à chaque match, on va avoir un attaquant, un défenseur et un gardien sur la galerie de presse pour regarder le match. Donc, ça amène un certain esprit de compétition à l'interne là, au sein de l'équipe. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un sur le top 6 ou le bottom 6 qui livre pas la marchandise, ben il y en a un dans les gradins qui est prêt à prendre sa place puis qui a le couteau entre les dents. Donc, c'est certain que c'est un avantage pour Équipe Canada. Est-ce qu'on va s'en servir? Parce que c'est la première fois qu'on a à gérer ça, une formation à 25 joueurs. Est-ce qu'on va y aller avec une rotation? Est-ce qu'on va rentrer des joueurs? Est-ce qu'on va sortir de la formation? Ça reste à déterminer. Même Dave Cameron... J'ai posé la question, sa réponse, Dave Cameron d'ailleurs, qui n'est pas gagné, pas pigé le premier dans le sac à charisme, m'a répondu avec à peu près 5 mots, m'a dit « c'est aussi simple que les meilleurs joueurs vont jouer ». Fait que à partir de là, est-ce que les meilleurs joueurs seront les 13 attaquants, les 7 défenseurs qui vont être sur le banc ou est-ce qu'on va se servir des gants trop qui vont être dans les gradins? Mais là, ça va être à suivre. Mais c'est certain que pour une équipe avec autant de profondeur que le Canada, ça peut te donner un avantage. Tu peux entrer un joueur plus physique peut-être contre une formation plus grande. On amorce le tournoi avec 2 matchs en 2 soirs. Est-ce que tu reposes certains gars? Est-ce que tu reposes ton gardien? Mais ce sont tous des éléments qui peuvent être avantageux là, quand tu as un petit peu plus de profondeur dans ton équipe.
Ça me fait toujours rire d'entendre compétition interne alors que c'est le championnat mondial junior. S'il y a un moment dans ta carrière où tu devrais être motivé tout le temps, c'est ça. Mais bon, gars...
L'an dernier, honnêtement, s'il y avait eu des joueurs sur la passerelle, je pense qu'on aurait vu une rotation parce qu'il y en a certains qui étaient tout simplement pas à la hauteur des attentes.
Il aurait manqué un peu de place sur la passerelle, même, j'ai l'impression. Parlons de la formation canadienne. On n'est plus à l'époque des Bœufs de l'Ouest. Hein? On a une équipe qui est peut-être plus petite ou du moins moyenne au niveau de la taille, du poids. On est plus dans la moyenne par rapport aux années où on allait chercher des gros bonhommes. Peut-être 2 joueurs qui ont été retranchés. Surprise, t'étais là au camp la semaine dernière. Beckett Seneke, 3e choix du dernier repêchage, appartient aux Ducks d'Anaheim. Et Matthew Wood, qui lui, était de retour. Ces 2 gars de 6 pieds 3, quand on parlait de taille, ben, on a décidé de ne pas faire appel à ces 2 joueurs-là puis d'aller chercher peut-être une attaque, une offensive plus dynamique. Tu regardes, qu'est-ce qui a mené à ces décisions-là, aux décisions générales de l'équipe quand tu regardes ceux qui ont été retenus?
Ben le mot d'ordre cette année, puis dès le début du camp d'entraînement, on le sentait, c'était... Tu sais, je pense que l'équipe voulait avoir un peu plus de papier sablé, un peu plus de joueurs d'énergie, un peu plus de joueurs qui jouent avec le couteau entre les dents, qui lâchent jamais le morceau. C'était vraiment ce qu'on recherchait. Dans ce type de joueurs-là, ben je pense que selon les joueurs qui étaient au camp de sélection, ben la majorité de ces joueurs-là sont peut-être de plus petits gabarits sur les 14 attaquants qui restent. Puis là, j'exclus la défensive parce qu'en défensive, je pense qu'on est tous au-dessus de 6 pieds. Puis on a quand même des gros bonhommes là, mais en attaque, il y a seulement 6 attaquants sur les 14 qui restent qui mesurent plus de 6 pieds. Donc, on a, tu sais, c'est quand même une petite attaque. Quand tu compares peut-être à des équipes de la Ligue nationale, on a certains plus petits joueurs, mais on les entoure avec des gros bonhommes. Donc, de voir Beckett Seneke et Matthew Wood retranchés au dernier jour du camp de sélection, ben ça n'a pas été une surprise parce que Seneca avait pas été invité à la base. Ouais, on l'a invité à la suite d'une blessure.
C'était peut-être ça la surprise davantage, là, le fait qu'il n'avait pas été invité. Là.
Exact, mais il faisait pas partie des plans à peu près 3 jours avant le début du camp de sélection. Donc pour lui, la marche était assez haute. Matthew Wood, de mon côté, au camp de sélection, puis je pense que c'était un peu unanime parmi les journalistes qui étaient là. C'est un joueur qui est gros, qui a des habiletés offensives, mais assez lent sur ses patins, souvent en retard sur le jeu, des fois ralentissait le jeu, même quand il y avait la rondelle, transportait. Donc je pense que ça cadrait pas avec les attentes qu'on avait pour ce groupe-là, qu'on veut rapide, qu'on veut avec beaucoup d'énergie. Donc ça, c'était moins une surprise, mais Seneca, pour moi, là, si les choses vont mal, ben je vais pouvoir dire je savais que l'équipe aurait dû prendre Beckett Seneca, mais premier match préparatoire contre les Étoiles universitaires avec Carson Rakoff a été un des plus dominants sur la patinoire. Ça a été un des seuls à générer de l'attaque. Puis on le sait, c'est un joueur qui est très, très talentueux offensivement. Dans un contexte où tu as un attaquant de plus, que même tu peux en avoir un dans les gradins, peut-être qu'à un certain point dans le tournoi, si jamais on a de la misère à générer de l'attaque, un gars comme ça aurait peut-être pu venir générer l'étincelle. C'est mon seul bémol parce que pour le reste, je veux dire, il n'y a pas vraiment de surprise. Le bassin de talent est tellement énorme que à peu près tous les gars au camp de sélection auraient pu faire l'équipe et ça aurait été...
L'équipe B, puis c'est ça qu'on disait.
Exactement, mais pour moi j'ai peut-être accroché là-dessus puis j'ai posé la question au directeur général Peter Arnold après l'annonce de la formation, puis il dit, on s'est comparé aux équipes qui ont gagné des médailles dans les dernières années, puis on est dans la moyenne pour la taille. Il dit, l'an dernier est souvent revenu. Là, pour vrai, ça a laissé des places.
On l'a mal pris, hein, c'est ça. Ouais.
Pas juste un peu. Là. Donc, il a dit, l'an dernier, en faisant l'équipe, on a accordé beaucoup d'importance à ça. Le gabarit, le poids, on avait des gros bonhommes. Connor Geeky était un de ceux-là. Puis ça n'a pas donné les résultats escomptés. Donc, cette année, on a dit, regarde, on y va avec des joueurs de caractère, des joueurs talentueux offensivement aussi, mais sans se préoccuper, est-ce que ce gars-là mesure plus de 6 pieds, est-ce qu'il est imposant sur la glace? On va se débrouiller avec les joueurs peut-être de plus petit gabarit, mais qui vont en donner à 110%. Fait que mon seul bémol, c'est Seneca, mais pour le reste, il n'y a pas beaucoup de surprises dans mon cas.
Bon, tu regardes cette équipe-là, qui va faire la différence? C'est qui les joueurs? Parce que c'est une formation, il n'y a pas de sur papier du moins, là, quand on regarde ça, il n'y a pas un joueur qui s'élève au-dessus de la mêlée. Il y aurait Gavin McKenna, puis tu vas nous en parler, c'est sûr, parce que McKenna, c'est pas son année de repêchage, il est plus jeune. C'est l'an prochain son année de repêchage, c'est un late McKenna, mais ça se pourrait qu'il y a à peu près le même âge que Connor Bedard quand Connor Bedard est arrivé, pas tout raflé, tout brûlé dans le championnat mondial junior. C'est un des joueurs qui pourrait faire la différence. Mais qui vois-tu faire la grosse production, être sur le premier trio, mener la charge pour le Canada?
Ben, je pense que ça va être un travail par comité du côté d'Équipe Canada. Pour l'instant, je regardais les trios à l'entraînement. On a Bradley Nadeau qui évoluait dans la Ligue américaine jusqu'à il y a quelques jours. Callum Ritchie et Easton Cowan. Donc, ce sont des joueurs talentueux, mais je pense pas qu'il y a personne qui peut dire que ça va être des futures vedettes là, dans la Ligue nationale de hockey. Pour moi, tu regardes ça, t'as un McKenna, pour l'instant, on semble le mettre dans un rôle de soutien. Là. Il y a sur le quatrième trio en ce moment, donc ça peut changer au courant du tournoi. Mais McKenna menait la Ligue de l'Ouest au chapitre des points. C'était le meilleur pointeur avant de se présenter au camp de sélection d'équipe Canada junior. Porter Martone, qui est un joueur admissible au repêchage cette année, qui était le deuxième meilleur pointeur de la Ligue de l'Ontario au moment du camp de sélection. Les gros noms sont jeunes chez le Canada. Je pense que c'est ça qui amène un petit peu de points d'interrogation parce que tu te dis, ces gars-là, l'an prochain, un McKenna l'an prochain ou un Porter Martone l'an prochain, aucun doute que c'est un joueur dominant sur la formation canadienne.
Si Martin est disponible, c'est
exact.
C'est toute la question avec le Canada. T'sais, il manque qui? Il manque Macklin Celebrini, il manque Zach Benson, il manque... Il y en a 3-4 qui sont dans la Ligue nationale de hockey.
Il y en a 3, puis le dernier, tu as nommé
ouais,
les deux qui me
viennent
en tête.
C'est ça, moi aussi.
Ben, ça va peut-être nous revenir éventuellement, là, mais ce club-là est quand même jeune. Gavin McKenna, l'an prochain, va être un joueur étoile, je veux dire, au prochain championnat junior. C'est certain que tu vas me poser la même question, qui va faire la différence. La réponse, ça va être sans hésiter Gavin McKenna. Mais pour l'instant, je pense que je vais attendre de voir avant de le nommer parce que, de un, quel rôle on va lui confier? Pour l'instant, ça semble être un rôle assez secondaire. Et ensuite de ça, ben, pour un jeune qui va fêter ses 17 ans, si c'est pas fait, ça va être dans les prochains jours, c'est difficile peut-être de s'élever au-dessus de la mêlée contre des gars, contre des équipes plus matures, plus physiques, plus âgées aussi. Donc, je vais attendre de voir, mais... Ma réponse pour cette année, je pense que ça va être par comité. S'il y a un joueur qui s'élève au-dessus de la mêlée, ben ce sera un bonus pour le Canada.
Le joueur qui nous manquait, il a même marqué hier Adam Fantilli avec les Blue Jackets de Columbus. Donc
on aurait un bon premier trio, je pense, oui. avec Celebrini et compagnie. Il y a Will Smith pour les Américains. Ça arrive aussi dans d'autres formations, mais le Canada est souvent parmi les équipes qui auraient pu avoir beaucoup d'aide là, de la part des équipes de la Ligue nationale.
Je dis Adam Fitteri, mais je ne suis pas certain finalement. Oui, parce qu'il est la même année que Ryan Leonard. Mais Connor Bedard, tu peux être là?
Oui, c'est ça.
Connor Bedard aussi.
Connor Bedard, oui.
Connor Bedard peut être là. C'est Macklin Celebrini. Écoute, imagine.
Fantilli, je ne suis pas certain. Je pense que c'est Bedard. Celebrini.
C'est ça. Fantilli, c'est un late. Exactement.
Exact. C'est Bedard, Celebrini puis Benson, les trois noms qui auraient pu être là. Dès le premier jour du camp, on a dit on n'aura pas d'aide des équipes de la Ligue nationale. Ouais, ça n'a pas été vraiment une grande surprise.
Non, mais imagine le trio. Bedard, Benson... Puis Celebrini qui s'amènerait là. Ouf. Ça te change une équipe à peu près. T'sais, à l'inverse des États-Unis, on va en parler tantôt, mais Ryan Leonard, il est là pour les États-Unis, il va peut-être être le meilleur joueur du tournoi. Lui, il pourrait jouer pour les Capitals présentement, mais a décidé de rester à Boston College. T'en as parlé un peu, mais on veut du papier sablé. On veut une équipe, surtout sur une petite patinoire, hein, patinoire nord-américaine. Ça aussi, c'est toujours un avantage pour équipe Canada. T'as parlé de Martone, c'en est un, mais il y en a d'autres qui vont amener... Cette dynamique-là, qui vois-tu là, être les bonnes vieilles épaules canadiennes?
Ben, les épaules, je sais pas. Ethan Gauthier, je pense pas qu'on peut le qualifier de gros bonhomme, mais honnêtement, au dernier match jusqu'à une sélection, on l'a jumelé à Cole Beaudoin, qui est un autre gars d'énergie, un gars physique.
Parles-tu français? Ces deux-là. Cole Beaudoin?
Pardon?
Est-ce qu'il parle français, Cole Beaudoin?
Je lui ai pas parlé, mais je penserais pas.
C'est parce que je sais qu'au dernier pêchage, ou celui d'avant, il y avait comme 2-3 joueurs qui parlent français, qui parlent français, mais on le savait pas nécessairement. Mm-hmm. Michael Hage, j'en ai un du côté, il est à l'Université du Michigan, mais avec Beaudoin, je ne suis pas sûr. Je te laisse poursuivre.
Faudrait que je lui pose une question en français pour voir sa réaction. On va le savoir à ce moment-là. Mais non, pour vrai, ces deux-là avaient été jumelés au dernier match d'audition contre les Étoiles universitaires, puis... Je pense que le plan pour Équipe Canada, c'est de les avoir ensemble sur un trio. Pour l'instant, ils sont jumelés avec Braden Yeager sur le troisième trio. Donc, ce sont deux joueurs d'énergie. Puis je pense que ça pourrait être très, très fatigant pour les adversaires qui auraient à les affronter. Ce sont deux gars vraiment qui sont capables de... Tu sais, ils courent pas après la mise en échec, mais si elle est là, vont la distribuer. Lâche jamais le morceau, sont toujours premiers sur la rondelle. Tanner Howe en est un autre dans ce moule-là. Mathieu Catafor, qui est un joueur très offensif dans la Ligue de hockey junior majeur, Ligue de hockey junior Maritime Québec.
C'est beau, bravo.
C'est un joueur très offensif.
4-5, ouais, c'est ça. L'avoir.
champion pointeur de la Ligue l'an dernier, mais là, va être dans un rôle plus d'énergie, plus défensif. Puis il est capable de jouer ce match-là. Donc, vraiment, du côté du Canada, je pense qu'on a ces éléments-là sont en place. Puis tu disais, Porter Marton, potentiellement le premier choix du prochain repêchage, hautement talentueux, mais il amène aussi cet élément de papier sablé, ce qu'on part à un Matthew Tkachuk. Donc, si on a un semblant de Matthew Tkachuk sur les deux premiers trios, puis ensuite de ça, on a un trio avec Beaudoin, Gauthier, on a un Katafor qui vient avec un Tanner House sur la quatrième unité, ben là, je pense que ce qu'on n'a jamais été capable d'instaurer l'an dernier, c'est-à-dire l'attaque par vague où ton premier trio donne le ton, deux embarquent, trois embarquent, quatre embarquent, puis tu passes du temps en zone offensive. Ça, l'année passée, jamais on l'a vu. Cette année, je pense que les éléments sont là pour qu'on puisse voir ça. Puis quand on parle de jouer à la façon canadienne, ben c'est exactement ça. C'est d'installer le rythme, puis de le poursuivre avec, de trio en trio. Les éléments sont là cette année pour parvenir à le faire.
En défensive, par contre, il y a beaucoup moins de points d'interrogation. Je pense que c'est beaucoup plus clair où on s'en va avec cette formation-là. Sam Dickinson, il va être bon. Là. Il va être incroyable. Tu vas avoir lui pour relancer l'attaque. Tu as Tanner Molendijk aussi qui appartient aux Predators de Nashville. C'est une brigade défensive. Est-ce qu'on est plus sûr, plus à l'aise avec notre brigade défensive du côté du Canada? Moins de questions?
Ben oui, puis tu sais, l'année passée, on se rappelle, Tristan Luneau, qui devait être le numéro un de mm-hmm. cette équipe-là, a été ennuyé par une blessure au genou slash virus bactérie. Ouais, c'est ça. Donc, on avait perdu un gros morceau dès le départ. Maverick Lamoureux avait un peu pris la relève, mais là, je pense que si tout le monde reste en santé, on a un bel équilibre entre des défenseurs offensifs puis des défenseurs plus défensifs qui sont quand même capables d'assurer la transition vers l'avant, qui bougent bien la rondelle. Un Oliver Bunk, c'est quand même un gars qui était là l'an dernier, qui est solide défensivement, mais qui a aussi cette petite touche offensive-là qui est capable d'appuyer l'attaque ou de relancer l'attaque quand vient le moment.
Ils font tous ça. Dans leur équipe junior, là, de toute façon. Là.
Ouais, puis je veux dire, rendu en 2025 bientôt, le hockey est rendu là. Les défenseurs, tu sais, il faut que tu aies les deux aspects dans ton jeu. Tu peux pas seulement être. Ben, tu peux, il y en a quelques-uns par équipe, mais majoritairement, c'est toujours des défenseurs qui sont bons aux deux extrémités. Celui que j'ai hâte de voir, Matthew Schaefer, on parlait de Porter Marton, qui est potentiellement le premier choix au prochain repêchage. Matthew Schaefer en est un autre qui est dans les discussions. Et honnêtement, au camp de sélection, ce gars-là, 17 ans, je serais prêt à dire qu'il était le meilleur de tout le groupe de défenseurs qui était là. C'est un gars très offensif, mais qui est toujours le premier. Il a un coup de patin vraiment, on dirait que c'est sans effort. Il est le premier revenu s'il se porte en attaque. J'ai hâte de le voir sur cette scène-là. Contre de la compétition plus mature, plus âgée, parce que c'est là qu'on va voir de quel bois il chauffe. Puis je pense que de ce que j'ai vu de lui, je l'ai vu jouer au Défi des Espoirs aussi il y a quelques semaines.
C'est une couple de fois là, que tu le vois à l'œuvre, lui. Là.
C'est ça. Puis à chaque fois, c'est la même chose. Il est constant dans son rendement. Puis je parlais justement avec Sylvain Favreau, qui est entraîneur adjoint de l'équipe, qui est l'entraîneur des Voitureurs de Drummondville, puis il me disait. Schaefer, quand je suis arrivé, je le connaissais pas. Mon seul doute, c'était est-ce que ce gars-là est assez mature pour prendre ses responsabilités-là puis jouer un rôle important dans un championnat aussi de haut niveau que celui-là. Puis il dit, dès les premiers jours, ça m'a absolument rassuré. Il joue de façon mature, joue comme un gars d'expérience. Donc, lui, vraiment, c'est celui que j'ai très haut sur ma liste, le Matthew Schaefer. Puis je pense qu'on lui confie déjà, il va être le carrière de la première vague du jeu de puissance. Donc, on risque de d'entendre souvent parler de lui pendant le tournoi.
Devant le filet, une lutte à deux, semble-t-il, entre Carter George et Carson Bjarnason.
Ouais, puis Carter George m'a beaucoup rassuré pendant. Ben, m'a rassuré. En tout cas, il m'a montré de belles choses pendant le camp de sélection. Très, très solide. C'est un gars qui n'est jamais déporté, toujours face à la rondelle. J'ai l'impression que c'est lui qui a la pole en ce moment devant le filet. Bjarnason, me laisser un peu sur mon appétit, mais bon, les choses peuvent changer d'ici le début du tournoi. Puis on a gardé aussi Jack Ivankovic, qui est admissible au repêchage cette année, qui va être probablement là comme troisième gardien pour prendre de l'expérience, parce que dans les prochaines années, ça risque d'être lui qui va avoir la pole. Donc, honnêtement, c'est un solide trio de gardiens. Comparativement à l'an dernier, Mathis Rousseau, Samuel Saint-Hilaire, il avait connu un bon camp, mais il était arrivé un peu comme un cheveu sur la soupe là, pendant le camp de sélection, puis on avait décidé d'y aller avec eux. Il n'y avait rien de coulé dans le béton. Là, cette année, on dirait que c'était plus clair. Les choix étaient plus clairs. Puis d'ailleurs, on a retranché Scott Ratzlaff, qui était là l'an dernier gardien. Pas parvenu à faire sa marque assez pour rester parmi le trio de gardiens.
On n'a pas une grosse représentation francophone cette année. Tu en as parlé un petit peu d'Ethan Gauthier, Mathieu Catafor et Bradley Nadeau qui complètent le tout. Nadeau qui est né au Brunswickois. Ethan Gauthier commence à... Écoute, cette famille, hein, lui, on peut remonter haut pour voir des athlètes dans sa famille se signaler au niveau international parce que...
Là, tu vas me parler de lutte, là, c'est ça?
Je m'en vais vers ça, là, mais bien évidemment, là, OK, on va y aller avec l'arbre généalogique. Son cousin Julien Gauthier a représenté le Canada deux fois au championnat du monde. Son père, Denis, a été, avant la carrière de la nationale de hockey, est allé au championnat du monde aussi. Là, si tu remontes, c'est son grand-père, ses oncles, c'est les frères Rougeau, Raymond et Jacques Rougeau, en lutte. Et avant ça, si tu remontes d'une génération, c'est le grand-père Jacques et son frère, Johnny Rougeau, qui, eux, ont été des grands lutteurs parmi les meilleurs. Mais Johnny Rougeau, ensuite, qui est tombé dans le hockey, là, parce qu'il était quoi? Il était commissaire, président de la JMQ, si je ne me trompe pas, Guillaume.
Là, tu me perds, là, mais... Je te fais confiance avec tes connaissances.
Non, mais
de
le trophée,
lutte,
le trophée Jean Rougeau, c'est Johnny Rougeau.
Ah,
oui, c'est le trophée, c'est Johnny Rougeau, le lutteur.
Je connais le nom du trophée, mais je n'avais pas fait les recherches.
Oui, c'est le lutteur qui a été qui était bodyguard aussi de René Lévesque. Donc là, on est dans la petite histoire. Non, mais c'est super intéressant. On va éviter Pat Laprade un moment donné, venez parler de hockey et lutte en même temps. Mais parle-nous un peu d'Étienne Gauthier, parce que veut pas, il arrive avec une dose d'expérience qui est différent. Il y a juste un angle un peu différent de vision par rapport à ce qui est ce que d'autres joueurs qui ont pas connu ça. Là.
Ouais, c'est ça. Il nous disait, il était quand même. En fait, il était pas né quand Denis a participé au championnat mondial junior, qui a gagné l'or dans une équipe.
Normalement, t'es pas supposé d'être père de
ça
famille.
Ça se jeune un peu. Ouais.
C'est ça. T'es pas supposé être père de famille quand tu vas au championnat junior. Ouais.
Mais il avait gagné d'ailleurs avec une formation qui comptait sur Jerome Iginla à l'époque. Ethan Gauthier qui est arrivé là, on se demandait s'il faisait partie des plans de l'équipe, mais je pense pas qu'on avait le privilège de se passer d'un gars comme lui cette année. Un gars, tu le disais, avec son expérience, non seulement son père, son cousin, mais l'expérience qu'il a acquise dans les dernières années, lui, ça a été, il a participé à la Coupe Lenka-Gretzky, il a de l'expérience avec la formation canadienne, il a gagné la finale du trophée Gilles Courteau l'an dernier, participé à la Coupe Memorial, donc c'est un gars qui a un bon bagage d'expérience, puis surtout qui est capable de se lever dans les grands moments, puis ça a été quelque chose dont on a parlé beaucoup au camp de sélection. L'an dernier, Ethan Gauthier était le meilleur pointeur des Voltigeurs pendant leur parcours éliminatoire. A marqué le but gagnant, je pense, à la Coupe Lenka-Gretzky en finale. Donc, oui, c'est un gars qui va avoir un rôle d'énergie plus défensif, mais c'est aussi un gars que si tu as besoin d'une étincelle sur un des deux premiers trios, tu le mets là, puis il va complémenter des joueurs de grand talent à la perfection. C'est ce genre de joueur-là, le couteau suisse un peu que tu peux avoir dans ton équipe et qui est nécessaire dans un tournoi de ce genre-là. Donc, Ethan Gauthier, j'ai parlé justement à Denis Gauthier hier, j'ai parlé à son frère, toute la famille s'en va passer le temps des fêtes à Ottawa, donc il va avoir le soutien là, de toute la famille. Je ne sais pas si les Rougeaux vont être là, par contre, Nick, je ferai ma petite enquête une fois rendu à Ottawa.
Tu salueras de ma part si tu les croises, les deux. Là. Raymond Rougeau, maire de Rawdon aussi. Là, donc, pour rire, là, j'ai été vérifié. Johnny, dans le fond, Jacques Rougeau, l'arrière, c'est le grand-père Jacques Rougeau, puis son frère Johnny, Johnny était entraîneur du National de Rosemont avec un certain Mike Bossy, qui a quand même bien fait dans le monde du hockey par la suite. Et ensuite, est bel et bien devenu président de la GMQ pendant quelques années. Donc, vraiment, a été impliqué. Puis Jacques, lui, ben, a eu les enfants, les petits-enfants, puis tout ça de la famille. C'est sa sœur qui est la mère de Denis Gauthier, dans le fond. Donc, famille d'athlètes depuis plusieurs années dans le hockey, dans le catch pour les gens qui nous écoutent du côté de l'Europe. J'en profite pour faire un pont vers notre prochain segment. Ben, écoutez, on a parlé d'équipe Canada. Maintenant, on va parler un peu d'équipe Suisse parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent du côté de la Suisse. On parlait bien de l'équipe de la France. Malheureusement, ils ne sont pas là. On leur souhaite à un moment donné de les voir au tournoi. Ce serait plaisant. Mais la Suisse va être là et pour en parler, on est avec nous. Il est commentateur des matchs de la National League sur MySports. Tu as fait aussi le championnat junior pendant quelques années. Jonathan Fillon, comment tu vas?
Oui, messieurs, ça va très bien, vous.
Super. Écoute, Jonathan, fait quelques années là, que tu es sur notre beau segment championnat junior à toutes les années. Parle-nous un peu de cette équipe suisse-là. Écoute, on ne se fait jamais d'illusions qu'on vise la médaille d'or ou tout ça, mais est-ce qu'on a au moins une équipe cette année où on se permet d'être positif, surtout quand on regarde le groupe dans lequel la Suisse va se retrouver? Tu sais, les puissances, le Canada, les États-Unis sont dans le groupe A, dans le groupe B. Il y a la Suède, mais après ça, la Slovaquie, la Tchéquie, c'est moins certain un peu. Est-ce qu'on peut se glisser dans ce groupe-là?
Écoute, Nick, c'est un couteau à deux tranchants pour la Suisse parce que oui, le groupe en ronde préliminaire est moins fort que lors des dernières années. Les puissances n'y sont pas. Donc oui, la Suisse peut peut-être bien se qualifier. Par contre, dans la ronde éliminatoire, ben là, on va affronter un adversaire direct. Donc, c'est à la Suisse de se placer dans les deux meilleures équipes pour espérer éviter d'affronter le Canada ou les États-Unis en huitième de finale. C'est vraiment ça qui va être important. Mais la Suisse, c'est un peu toujours la même chose. Ça fait quelques années déjà que je viens vous rendre visite dans le temps des fêtes pour parler de l'équipe de Suisse de championnat du monde de hockey junior. La Suisse vise toujours seulement de passer à la ronde éliminatoire. C'est l'objectif parce qu'on sait qu'on n'est pas une puissance, surtout pas chez les moins de 20 ans, parce que la Ligue des moins de 20 ans en Suisse est quand même bien inférieure à ce qu'on connaît aux États-Unis et au Canada. Mais par contre, cette année, il y a beaucoup de joueurs qui ont de l'expérience en National League, donc contre des joueurs professionnels ou même en Swiss League, la deuxième division suisse. Donc encore là, contre des professionnels. Et c'est là où je pense que cette équipe est mieux bâtie que par les dernières années parce qu'avant, on avait des équipes remplies de joueurs qui jouaient contre d'autres joueurs de leur âge, de leur groupe d'âge, mais d'un niveau très inférieur. Alors que là, quand tu as un joueur qui évolue sur un troisième bloc à Berne, match après match, ben, tu te dis, le gars, il est habitué d'affronter des joueurs professionnels, des joueurs de meilleur niveau, des anciens joueurs de NHL. Donc, c'est là où je pense que pour l'équipe de Suisse, il y a un beau groupe quand même pour cette année-là. Il y a des joueurs un peu plus vieux aussi, des jeunes talents. Donc, j'arrive quand même avec un espoir, évidemment, pas un grand espoir, pas un espoir de médaille, mais un espoir d'un meilleur tournoi pour l'équipe de Suisse cette année.
Oui, mais tu me sonnes plus positif que dans les dernières années, en tout cas. Là.
Ben écoute, c'est difficile de ne pas être positif avec les performances de l'équipe de Suisse année après année. Parce que tous les espoirs sont permis avant la première mise en jeu. Et là, ben, j'analyse
c'est là,
un peu...
C'est là que ça se gâte, c'est ça que tu vas me dire?
Souvent, en plus, le premier match, il est catastrophique de l'équipe de Suisse. On dirait que les joueurs ont de la difficulté à se mettre en jambe. Mais vraiment, j'analysais l'équipe de fond en comble avant l'émission. Je voulais vraiment être au courant de tout ce qui se passe dans l'équipe de Suisse cette année. Et vraiment, il y a beaucoup de joueurs que je commande en National League, beaucoup de joueurs qui vont retenir l'attention d'autres qui évoluent, que ce soit du côté de l'Amérique du Nord ou en Suède. On sait que le développement en Suède est bien meilleur qu'en Suisse. Donc, c'est là où je me dis, pourquoi pas croire à un meilleur tournoi, un tournoi peut-être plus convaincant cette année pour l'équipe de Suisse.
Quelques joueurs à surveiller, des noms qu'on va peut-être connaître, parce qu'il y en a quelques-uns aussi qui jouent aussi au Québec. Tu parlais de la National League, mais il y en a qui jouent aussi au Québec, aussi dans la GMQ.
Ben, le nom peut-être qui est le plus connu pour vous du côté du Québec, c'est Lars Steiner qui joue du côté de Rouyn-Noranda. Évidemment, il est très bien entouré à Rouyn, mais à 17 ans, il a 36 points en 29 matchs cette saison. Donc, avant la pause, évidemment, du temps des fêtes pour lui, avant de rejoindre l'équipe de Suisse. 17 ans, évidemment, c'est un tournoi de joueurs de 19 ans. Donc, on ne peut pas s'attendre à ce qu'il ait un point par match. Ce serait surprenant. Il ne sera pas entouré comme avec les Huskies. Mais par contre, ça reste un très, très beau talent, un talent que les gens connaissent au Québec aussi ou apprennent à découvrir ceux qui suivent le hockey junior. Donc, c'est sûr que lui, ça va être très intéressant de le suivre. Évidemment, Léo Braillard, on l'a vu la saison dernière au championnat du monde junior. Il a joué un an et quelques matchs du côté de Shawinigan dans la LHJMQ aussi. Il est du côté maintenant de la WHL depuis deux saisons. C'est pas un marchand de points. Il devrait quand même avoir un bon rôle au sein de l'équipe de Suisse sur les deux premiers trios parce que c'est un joueur offensif. Des joueurs suisses qui font leur place en Amérique du Nord, dans les ligues juniors, il n'y en a pas beaucoup. Donc, on devrait le voir parmi le top 6 de l'équipe de Suisse.
Un autre nom, Joe, qu'on connaît aussi du côté de Montréal, Evan Huet, de Van Filet, le gardien, ouais. Fils de Cristobal Huet. Je regarde ses statistiques cette année du côté des Pats de Regina dans la Ligue de l'Ouest. Ça va pas très bien de son côté. Écoute, est-ce que le filet lui appartient? Parce que je regarde, il y a Christian Kirsch, qui est un choix des Sharks de San Jose, qui joue aux États-Unis dans la North American Hockey League. Qui tu sais, veut pas, quand t'es repêché dans la Ligue nationale de hockey, c'est qu'il y a du potentiel habituellement. Le choix de quatrième ronde, 116e au total.
Non, le poste de numéro un n'est pas donné à Evan Huet, même si c'est le gardien avec le plus d'expérience parmi les trois. Reste qu'il n'a joué qu'une simple période, je crois, lors du dernier tournoi. D'ailleurs, Guillaume avait fait un texte avec son père, Cristobal, lors du championnat du monde l'an dernier. C'est certain qu'il retient l'attention par son nom. Par contre, les choses sont un peu plus compliquées. Il a déjà annoncé qu'il rentrait en Suisse la saison prochaine, va jouer avec soit Kloten en National League ou va se diriger du côté de la Swiss League. J'imagine qu'il devrait être le gardien qui affronte les meilleurs clubs, les meilleures équipes en ronde préliminaire. Mais en Suisse, il n'y a pas un gardien dominant pour l'instant. C'est pas comme Trey Augustin du côté des États-Unis qu'on peut classer directement numéro un. Evan Huet, pour l'instant, part avec une petite longueur d'avance par l'expérience et l'âge qu'il a. Mais faudrait pas être surpris qu'au cours du tournoi, si ses performances ne sont pas à la hauteur, qu'il soit remplacé justement par Kirsch, qui pourrait, lui, il a la double nationalité allemande et suisse. Il s'aligne avec l'équipe de Suisse depuis quelques saisons déjà. Donc, lui, il a choisi la Suisse sur la scène internationale. Donc, il ne faudrait pas être surpris que lui soit devant la cage si jamais Evan Huet, dès le début du tournoi, n'est pas à la hauteur.
Surtout que c'est court comme tournoi. Tu l'as dit, on n'a pas le choix si on veut éviter un affrontement avec les puissances de l'autre côté, de l'autre groupe. Tu ne peux pas échapper beaucoup de matchs.
Et on va le savoir dès le premier match. C'est souvent la même chose pour l'équipe de Suisse. Surtout là, le premier match est contre la Tchéquie, donc l'une des deux meilleures équipes, je crois, du groupe. Donc, le gardien qui devrait être devant la cage face à la Tchéquie devrait être devant la cage face à la Suède. C'est souvent la marche à suivre pour l'équipe de Suisse. Donc, à moins d'une grosse surprise, ce sont des entraîneurs qui aiment bien justement préparer leurs gardiens pour qu'ils sachent d'avance qui vont affronter et dans quel cadre aussi.
Et pour la Suisse, ça va être quand même difficile. Tu regardes le tableau. Si on termine troisième, on affronte le deuxième du groupe A. Si on termine quatrième, on affronte le premier du groupe A, qui devrait être soit le Canada ou les États-Unis, ou vice-versa. Donc,
ou même la Finlande.
Mais je regarde le groupe B, puis... Tu sais, si la Suisse offre une bonne prestation dans ce tournoi-là, puis réussit peut-être à surprendre une équipe comme la Slovaquie, bat le Kazakhstan, ben là, on parvient peut-être à avoir un bon résultat en ronde préliminaire qui peut être une victoire morale, entre guillemets. Puis après ça, ben, je veux dire, oui, d'une manière ou d'une autre, contre le Canada ou les États-Unis en quart de finale, il faudrait un miracle là, pour.
Ouais, exactement. T'as raison, Guillaume. En fait, ce qu'il faut vraiment viser, on oublie la Suède, là. Je pense que la Suède est à part dans ce groupe. Mais ensuite, Slovaquie-Suisse, c'est toujours très serré. La Tchéquie est un peu le point d'interrogation parce qu'on est un peu à la croisée des chemins après deux gros tournois. Qu'est-ce que va nous offrir la Tchéquie cette année? C'est pas encore 100% certain. Est-ce que la Suisse peut prendre la Tchéquie? Peut-être. Et si jamais il se qualifie, par exemple, deuxième du groupe, il faudrait quand même... Ce serait déjà là, les, comme tu dis, une victoire.
Les astres s'alignent. Ça prend des défaites dans la prolongation, des si comme ça, là, c'est ça. Là.
Exact. Mais on ne sait jamais. C'est un tournoi tellement court. Ça pourrait peut-être arriver. Qui sait? Si jamais la Suisse se qualifie deuxième du groupe, ce qui arriverait jamais s'ils étaient dans le groupe A cette année, eh bien, là, peut-être qu'ils pourraient jouer contre la Finlande. Et dans l'histoire du tournoi, dans l'histoire récente du tournoi, parce qu'évidemment, on ne peut pas monter trop loin, les matchs entre la Suisse et la Finlande sont très serrés. Pourquoi? Parce que la Suisse, dans ce tournoi-là, c'est qu'elle n'a pas les éléments offensifs pour rivaliser avec les grosses puissances internationales. Donc, du coup, joue souvent un style de jeu fermé, tente de limiter les dégâts dans certaines situations. Et la Finlande joue également un style de jeu très fermé, très défensif. Ben, c'est là où ça donne un petit peu plus de chance à la Suisse qui peut utiliser un peu plus sa vitesse. C'est une équipe qui est réputée pour justement essayer d'utiliser sa vitesse dans son jeu. Et c'est peut-être là où la Suisse peut causer une surprise. Mais là, évidemment, il faut que les étoiles soient bien alignées. Un soir de pleine lune. Puis voilà. Donc, je ne miserais pas ma paye là-dessus, messieurs.
Il faut toucher du bois là, partout dans l'aréna là, pour y arriver. Hey, les gars, on va faire le tour rapidement. Ben, tu sais, des autres équipes, là, on ne va pas aller en profondeur dans toutes les autres équipes du tournoi, mais celle qu'on se doit de parler, c'est bien évidemment les États-Unis. Je pense que, du moins, de l'avis des plusieurs experts, c'est l'équipe qui est favorite. On l'a emporté l'an dernier. Et là, ce qu'on tente de faire, Guillaume, c'est d'être champion pour deux années de suite. Et ça, les Américains n'ont jamais été capables de le faire. Mais quand tu regardes cette équipe-là, puis là, toi, tu les as vus à l'œuvre. Tu as vu certains des joueurs de l'équipe à l'œuvre quand tu es allé à Boston College. Il y a des munitions, puis ça s'adonne que les munitions évoluent les trois ensemble sur le premier trio, autant à Boston College qu'avec l'équipe américaine, probablement.
Exactement. Ce trio-là va être le trio à surveiller pendant tout le tournoi. Ça ne fait aucun doute. L'an dernier, c'était le trio de Perreault, Leonard et Will Smith. On en a parlé un peu plus tôt. Will Smith n'est pas là, est avec les Sharks de San Jose dans la Ligue nationale. Donc, il va être remplacé cette année, comme il l'a été à Boston College, par James Higgins, un autre qui est considéré comme le potentiel premier choix du prochain repêchage. Ce trio-là fonctionne à plein régime quand même. Il y a eu ça n'a pas été facile l'adaptation en début de saison à Boston College parce que Perreault et Leonard sont extrêmement habitués à jouer ensemble. Je pense que depuis 2 ans, jouent constamment sur le même trio. Ça a été avec Will Smith au championnat junior, ça a été avec les moins de 18 ans au programme américain. Donc, il y a eu une certaine période d'adaptation, mais là, j'ai l'impression que, bon, les choses se sont mises en marche tranquillement avec James Higgins. Ça fonctionne très bien. On approche tout. On est tous autour de la récolte de 20 points en 16 matchs là, avec Boston College. Donc, ce trio-là, honnêtement, ça va être... on se posait la question, qui va faire la différence pour le Canada? Ben, s'il y a des attaquants qui vont faire la différence avec les États-Unis, ça risque d'être parmi ces trois-là. Je regardais la formation, puis oui, on a l'impression que les États-Unis sont favoris parce que, bon, on a gagné l'an dernier. On a un gardien d'expérience en Trey Augustine qui en est à sa troisième présence au Mondial Junior.
Écoute, on a même fait le championnat mondial senior, puis on a super bien paru, là, c'est ça, là.
Donc, lui, c'est peut-être la carte plus ou moins cachée de cette équipe-là.
Tu sais, est assez dévoilée, merci. Tu joues à jeu ouvert,
exact,
là,
avec Trey Augustine. Il peut quand même être celui qui va faire la différence dans des matchs de haute importance. Là, si on imagine une finale entre le Canada et les États-Unis, ça pourrait être ce qui va faire basculer, pencher la balance de leur côté. Mais je regardais un peu au niveau de la profondeur puis peut-être de la production secondaire qu'on peut attendre de cette équipe-là. Puis c'est comparativement à l'an dernier, j'ai l'impression qu'il y en a un peu moins. En attaque, on a perdu Cutter Gauthier, Rodger McGroarty, Jimmy Snuggerud qui seront pas de retour cette année. On les remplace, on a un Cole Iserman qui arrive, quand même assez jeune. Est-ce qu'il va être capable de c'est soutenir avec régularité ce premier trio-là. C'est un point d'interrogation pour ma part. En défensive, ben on perd un Lane Hutson qui, l'an dernier, a été qualifié de cheval à peu près 875 fois pendant le tournoi parce que jouait des 30 minutes par match, autant avec dans des fonctions offensives que des fonctions défensives. Donc, on le perd, on le remplace peut-être par son frère. Est-ce que Cole est meilleur que Lane? C'est à suivre, mais il y a Ziv Boyum qui est de retour. Lui va jouer un rôle important.
C'est ça, oui.
Donc, tu sais, on a des éléments clés à chaque position, mais au niveau du soutien à ces gros canons-là, j'ai des petits doutes, mais c'est certain que quand tu regardes, bon, gardien, défenseur, attaquant, tes trois premiers attaquants, tes deux premiers défenseurs, puis ton gardien, c'est assez... C'est assez menaçant du côté des États-Unis. C'est au niveau du soutien que j'ai peut-être un petit peu plus de questions.
Tu vont s'affronter Canada-États-Unis le jour du Nouvel An, le soir du Nouvel An. Le réveillon, ouais. Réveillon. Toi, ouais. Tu t'en vas passer ta nouvelle année au Centre Canadian Tire, Guillaume, pour le 31 au soir. 20h le match, si je ne me trompe pas. 20h, ouais. Heure de l'Est.
On a déplacé la mise au jeu à 20h au lieu de 19h30. Donc ça m'assure de réveillonner dans la superbe salle média du Centre Canadian Tire qui est légèrement défraîchie, du beau tapis avec quelques taches et des murs avec des trous. Ça va être superbe. Et là, on a reçu le guide média, puis on nous avise qu'il est interdit de consommer de l'alcool dans la salle média. Donc, on s'était dit peut-être une petite consommation, bière à minuit.
Un petit Baileys de café.
Ben oui, une petite bière à minuit, juste pour, tu sais, en écrivant notre texte, un peu festoyer, mais on n'a même pas le droit de faire ça. Donc, ça va être un nouvel an, disons, tranquille, et du si côté de Canada.
Et si tu vas aller célébrer ça par la suite en sortant, te rendre à Gatineau, faut que tu reviennes de Canada. Donc, c'est... Ce sera pas long.
Ça va être ardu de trouver un endroit ouvert dans ce coin-là.
Mais bon, en même temps, s'il y a quelque chose que les journalistes qui couvrent un tournoi de la sorte savent faire, c'est trouver des endroits pour célébrer. Je suis pas trop inquiet pour toi et tes collègues qui seront là. Les gars, on va faire un petit peu le tour des autres équipes, surtout les joueurs à surveiller dans le tournoi. Là. Vous en avez parlé, on a parlé de Troy Augustine qui en est à sa troisième présence. Un autre qui en est à sa troisième présence pour les Suédois, c'est Axel Sandin-Pelikka, choix des Red Wings de Détroit en première ronde. Écoutez, c'est le meilleur marqueur des défenseurs de la SHL présentement, ce qui est incroyable parce que je veux dire, la SHL, c'est pas la ligue où on fait le plus confiance à nos jeunes joueurs. Il y a 22 points en 25 matchs. Lui, je pense... Mais là, ça en fait une coupe que les Red Wings vont commencer à aimer là, avec Sider, avec Edvinson, avec lui qui s'en vient. À un moment donné, on va peut-être sortir des bas-fonds. Mais Sandin-Pelikka, déjà, a l'étiquette peut-être du meilleur défenseur du tournoi.
Ben écoute, moi, Nick, j'ai eu la chance de le voir jouer à Genève en Champions Hockey League la saison dernière en grande finale. Évidemment, je le connaissais parce que c'est un choix, un haut choix des Red Wings de Détroit, un joueur prometteur. Et la chance qu'on a quand on voit un joueur en vrai et pas à la télé, ben c'est évidemment tout ce que les petits détails de son jeu. La patinoire à Genève, la patinoire de Vernet, c'est une petite patinoire. On était près de l'action. Je le regardais attentivement et c'était déjà un défenseur dominant contre des hommes. Donc là, ce sera vraiment un homme parmi les enfants, Axel Sandin-Pelikka. C'est vraiment un défenseur... Qui a une très belle vision de jeu, très mobile aussi, bonne première passe, mais je l'ai trouvé assez fiable défensivement aussi. C'est pas un défenseur à risque devant son gardien. Évidemment, ça aide de jouer en SHL. Hein. Les joueurs de SHL ont cette conscience défensive aussi. C'est presque obligatoire. Et oui, c'est un joueur qu'il faudra garder à l'œil et ce sera un très bel élément de l'avenir des Red Wings de Détroit. On sait que la reconstruction piétine du côté de Détroit, on se pose beaucoup de questions. On en a un très, très bon qui s'en vient dans quelques années et qu'on aura la chance de voir dans ce tournoi.
Les gars, les Suédois, vous les classez où par rapport au Canada et aux États-Unis?
Moi,
sur papier, là, c'est ça?
derrière le Canada et les États-Unis. Pour moi, c'est la troisième puissance de ce tournoi-là. On a justement des bons éléments comme ça qui vont être de retour, mais on n'a pas la profondeur du Canada et des États-Unis, ni le talent de pointe peut-être de ces deux équipes-là. Donc, vont être dans les discussions, là, mais à moins d'une surprise sur la patinoire, là, sur papier, si tu me demandes, en date du 18 décembre, j'ai les classes au troisième rang.
Ouais, quoi, il y a Tom Wilander. Ouais, j'allais dire, il y a Tom Wilander, David Edstrom, là, qui sont peut-être les meilleurs noms avec Sandin Pellikka, là, peut-être Théo Lidstein aussi, là, mais bon, c'est comme tu dis, ben, il manque un peu.
Exact, j'allais dire la même chose. J'allais dire, chez les Européens, ce sera la meilleure équipe pour moi. En tout cas, sur papier, c'est la meilleure équipe chez les Européens. Mais il ne faut pas oublier les deux Nord-Américains qui vont dominer ce tournoi, selon moi.
Oui, puis ensuite, ils ne vont pas s'affronter avant. Canada-États-Unis. Non, Canada-États-Unis ne devraient pas. Oui, ils peuvent se rencontrer en demi-finale. Ben, tout dépendant. Je devrais dire, c'est tout dépendant comment tu vois la
les équipes après le. Il y a beaucoup de. Ça dépend beaucoup de. J'essayais de faire le tableau, mais après les quarts de finale, c'est assez dur de prédire ce qui va se passer.
Exactement. Ce qui est intéressant cette année, corrige-moi, Guillaume, à quel point. Il me semble qu'il y a beaucoup de joueurs de la Ligue américaine cette année. Que les équipes de la Ligue nationale ont décidé de partir. On prêtait, c'est le terme officiel. On a parlé de Bradley Nadeau tantôt. Un qui est intéressant, Konsta Elenius, du côté des Finlandais. C'est bon, cette année, il évolue avec les Americans de Rochester. 16 points en 26 matchs. Choix de première ronde, 14e l'année dernière. Elenius, bon, avec la Finlande, tu t'attends à quoi? Tu t'attends à ce que ce soit vraiment le fer de lance de cette équipe-là?
Ben, j'aimerais le voir devenir la menace offensive de cette équipe-là, mais comme Jonathan disait tantôt, les Finlandais jouent souvent du hockey très hermétique. C'est pas une équipe portée vers l'attaque. Je regardais l'an dernier, 25 buts en 7 rencontres pendant le tournoi. C'est pas une attaque explosive. Konsta Elenius avait amassé un but et une passe, un but et une passe en 7 matchs. Donc, cette année arrive, peut-être avec l'an dernier, c'était son année de repêchage, arrive avec la confiance d'avoir été repêché dans la Ligue nationale. La confiance aussi, honnêtement, pour une première année en Amérique du Nord, 6 buts, 10 passes en 26 matchs dans la Ligue américaine, qui est pas reconnue comme étant une Ligue offensive, c'est quand même très bon signe, de très bon augure pour Konsta Elenius. Je pense qu'on va lui confier le premier trio cette année. L'an dernier, était peut-être... Je me souviens qu'on voulait lui donner des responsabilités offensives, mais les résultats venaient peut-être pas. Donc, on a jonglé un peu avec les trios du côté de la Finlande. Mais cette année, je pense qu'avec son statut, la saison qu'il connaît va arriver en tant que centre de ce premier trio-là. Puis, il va devoir mener la charge là, pour cette équipe-là, sans aucun doute.
On a beaucoup parlé.
J'ai peur, Nicolas, excuse-moi. J'ai peur que ce tournoi-là ne le mette pas en valeur parce que, comme dans la ronde préliminaire, ils affrontent les États-Unis et le Canada. Évidemment, la Finlande va devoir jouer défensif, son meilleur hockey défensif. Donc là, ça laisse la Lettonie et l'Allemagne pour faire des points, pour vraiment se mettre en valeur. Et après, ben, on va en penser ce qu'on veut, parce que quand des bons joueurs affrontent ces équipes-là, qui sont souvent beaucoup plus faibles, on se dit, ouais, bon, ils font des points contre des équipes qui sont moins bien nanties que les puissances. Donc, peut-être que ça ne mettra pas en valeur. Par contre, j'ose croire qu'on va quand même voir des beaux flashs de lui.
On a beaucoup parlé dans les dernières années de l'émergence, du retour un peu en force du programme slovaque. Juraj Slafkovský est passé par là, entre autres, là, du côté de Montréal. Un des joyaux de ce programme-là, présentement, c'est Dalibor Dvorsky, qui évolue pour le club-école des Blues de Saint-Louis avec les Thunderbirds à Springfield, ancien des Wolves de Sudbury aussi. On salue les gens qui nous écoutent du côté de Sudbury. A été repêché au 10e rang en 2023. C'est son année, c'est son équipe, mais... Est-ce que ça se poursuit du côté de la Slovaquie, cette montée un peu là, du programme où il y a un certain plateau qui a été atteint ou même une petite régression?
Bon, je pense qu'avec un Philippe Mecher qui ne sera pas de retour, on perd quand même une pièce importante de la formation. De ce que je vois sur papier, là, évidemment que je ne connais pas tous les joueurs qui sont là, mais on dirait qu'on a perdu un petit peu de profondeur. Peut-être que dans les dernières années, on avait certains éléments offensifs qui étaient capables d'amener de la production sur les deux premiers trios. Cette année, je me pose la question. Tu as parlé de Dvorsky. C'est certain que ça va être le joueur offensif sur lequel la Slovaquie va compter. Mais il y a aussi un Juraj Pekarčík qui joue avec les Wildcats de Moncton, qui produit, qui est à plus d'un point par match. Lui aussi va jouer un rôle important, mais j'ai l'impression, puis tu sais, tantôt j'en ai glissé un mot, je serais quand même pas surpris si cette équipe-là se faisait surprendre par la Suisse ou qu'on ait une surprise comme ça dans la ronde préliminaire, parce que sur papier, ça me semble pas être une formation aussi puissante que par les dernières années. Donc on verra bien, mais Dvorsky va devoir en faire beaucoup là, s'il veut garder cette équipe à flot.
Oui, tu regardes la formation, seulement quatre joueurs repêchés dans la Ligue nationale de hockey, dont un certain Miroslav Chatan, ça rappellera plusieurs souvenirs à beaucoup de gens, mais semble pas être aussi talentueux que son père, là, Chatan.
La Slovaquie, c'est une fédération, c'est une petite fédération quand même, hein. C'est vraiment des cycles et j'ai vraiment l'impression que les derniers cycles ont tellement été dominants, ont tellement été des belles surprises que là, on a peut-être le creux de vague un petit peu, j'ai l'impression, mais je veux pas non plus dénigrer cette équipe parce que je pense quand même que c'est une équipe qui dans son groupe peut viser la deuxième place, mais un peu par défaut, un peu comme la Suisse ou la Tchéquie, parce que tout est ouvert dans ce groupe-là, c'est vraiment un groupe plus faible, mais je m'attends pas à des performances aussi étincelantes qu'on l'avait vu peut-être l'an dernier.
Peut-être autant finir deuxième que cinquième, j'ai l'impression, la Slovaquie.
Exact.
Mauvaises sorties, là, puis rapidement, tu peux débouler. Là.
Peut-être
pas cinquième,
étonnant. Parce que Kazakhstan...
Faudrait se forcer pour terminer cinquième, je pense.
Attends, j'ai mal à regarder mes groupes, là, à ta minute. Là.
Le Kazakhstan est vraiment...
Non, excuse-moi, j'ai mélangé, j'avais la Lettonie et l'Allemagne dans ce groupe-là et non pas le Kazakhstan. Je confirme que cinquième.
On n'est pas à risque de relégation ici, là, je pense.
Écoute, Canada a déjà perdu contre le Kazakhstan, souvenez-vous, en 98, hein, ça avait brassé dans les chaumières canadiennes. En terminant, la Tchéquie, ça a été un beau tournoi l'année dernière. On le sait, on a éliminé le Canada, mais beaucoup moins de munitions, beaucoup de joueurs de retour, mais moins de puissance d'élite sur cette équipe-là. Celui qui est probablement le plus talentueux, c'est Edward Salé, qui évolue pour les Firebirds de Coachella Valley. 13 points en 22 matchs cette année. Choix de première ronde, 20e au total du Kraken de Seattle. Guillaume, cette équipe-là, il manque, il y a un gros départ, puis veut pas, il va être difficile à remplacer. Là.
Ah, Jiří Kulich, qu'on a vu à l'œuvre sur la glace du Centre Bell hier soir dans l'uniforme des Sabres de Buffalo, c'était le joueur à surveiller pour la Tchéquie. Puis on dirait que c'était le joueur qui incarnait un peu le style de jeu de cette équipe-là, physique, offensif, hargneux. L'an dernier, avait récolté quand même 12 points en cette rencontre, 6 buts dans ce tournoi-là. C'était le capitaine de la formation tchèque. Donc, on perd vraiment un élément très, très important. Ça va être à Edward Chalet de prendre la relève du côté offensif, du moins. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous réserver parce que, comme tu disais, je pense qu'il y a une quinzaine de joueurs là, qui sont de retour, donc des joueurs avec de l'expérience qui ont réussi à sortir le Canada l'an dernier. Donc, pour un pays comme la Tchéquie, c'est quand même un exploit mémorable. Je pense qu'avec cette expérience-là qu'on a acquise dans les dernières années, c'est une équipe qui est quand même à surveiller. Il y a beaucoup d'expérience. On sait comment jouer pour gagner ces matchs-là. Mais j'ai vraiment hâte de voir est-ce qu'on va être capable de remplacer un gars comme Kulich au niveau de la production offensive, parce que c'est au final ce qui compte le plus dans ce tournoi-là.
Et moi, j'ajouterais, dans cette espèce de threesome là, dans le groupe B entre la Suisse, la Slovaquie, la Tchéquie, ça reste la Tchéquie qui a le meilleur gardien avec Mikhail Rabal. Donc, peut-être que ça peut vraiment aider la Tchéquie à bien se positionner dès la ronde préliminaire dans le top 2. C'est peut-être ça la carte cachée que la Tchéquie a dans sa main pour sortir de cette espèce de ventre mou là, du groupe B.
Messieurs, c'est le temps, vos prédictions. Je veux vous entendre. Votre top 3 pour chaque groupe?
Ouais, ben moi, je vais avec Canada, États-Unis, Finlande. Top 3. Je pense que le match du 31 décembre va faire la différence au Canada, à Ottawa, dans la capitale fédérale. Je pense que l'énergie va être en faveur des joueurs canadiens dans ce tournoi-là. Ça, c'est ça qui va donner la première place au Canada dans le groupe A.
Joe?
Ouais, le fait de jouer à domicile, puis le fait aussi de vouloir venger le résultat de l'an dernier. Je pense que le Canada va terminer premier de son groupe. États-Unis ensuite, Finlande ensuite. Je pense que c'est assez clair dans le groupe A parce que ce serait surprenant de voir la Lettonie ou l'Allemagne, honnêtement, avoir une chance dans ce groupe-là de passer dans le top 3.
Non, exactement. Dans le groupe B?
Moi, je vais avec Suède, Tchéquie et Slovaquie. Même si Joe m'a fait un peu hésiter, là. Il m'a bien vendu la Suisse, que je pourrais voir quand même dans un top 3, mais j'y vais quand même avec la Slovaquie pour l'instant.
Écoute, moi, je suis assez confiant. Je me trompe peut-être, qui sait, mais j'irai vraiment avec la Suède, la Tchéquie et la Suisse. Tchéquie, pour les éléments qu'on a dit, l'expérience et le gardien. Mais la Suisse, j'ai l'impression, pourrait peut-être causer une surprise à une Slovaquie qui est moins bien nantie que par les dernières années.
Puis finalement, messieurs, votre podium. Médaille d'or, une finale. Qui va s'affronter en finale? Qui va avoir le bronze? Qui l'emporte?
C'est dur à dire qui va s'affronter en finale. Moi, je souhaite de tout cœur une finale Canada-États-Unis en sol canadien. Puis pour les mêmes raisons, j'irai avec une victoire du Canada. Puis aussi le fait que, comme je disais, j'ai l'impression qu'au niveau du soutien du côté des États-Unis, peut-être de la production secondaire, on est peut-être moins à la hauteur que que l'année dernière. Donc, j'y vais avec Canada-États-Unis. Et sur la dernière marche, disons une surprise de la Finlande qui va battre la Suède pour la troisième place.
Juste avant, Guillaume, parce que je me souviens, quand le tournoi avait été la finale, était à Montréal, les Américains l'avaient emporté.
Ouais, dans un match rocambolesque.
Ouais, mais ça s'était terminé en fusillade. Là, quels sont les règlements de la prolongation? Je veux plus voir. Je veux plus voir de tir de barrage.
Ouais, je pense qu'on avait changé ça, qu'on a vraiment donné plus de temps à la prolongation. Il faudrait que je vérifie, par contre.
OK, good, je vais aller.
Pendant peut-être les prédictions de Joe, je vais essayer de...
On va vérifier, parce que je veux plus jamais voir... Écoute, il n'y a pas de ligue de old-timers qui ont besoin de la glace après la finale. Tu peux jouer longtemps, il n'y a pas de problème. Les Ice Capades ne sont pas en ville. Il n'y a pas de... OK, on joue jusqu'à mort subite, qu'on dit, là, sudden death. Là.
Dans le match de la médaille d'or, ce sera des périodes de 20 minutes jusqu'à un but en or.
Alléluia! Bon, ouais, ouais.
Donc, on n'aura pas de séance de tir de barrage où Troy Terry va venir mettre fin à tous les espoirs des Canadiens.
Puis, tu sais, reviens. Tu sais, ils ont le droit de revenir. Là, t'es comme, non. OK, enfin, merci Fédération internationale d'avoir...
Ouais, les fameuses règles de l'IHF.
Toi, t'es Canadien, là, parce que de ton côté, là, tu dis... Tu parlais de Genève, je pense que les bureaux sont là du côté de la IHF. Là.
Non, Zurich, l'IHF.
Zurich, excuse-moi. Zurich.
Et Nick, je te disais que le Canada a quand même souvent un gros mot à dire sur la réglementation de l'IHF pour ce tournoi-là. Je serais pas surpris que ce changement-là, ça ait pris naissance justement à cette finale-là de 2017 là, où les États-Unis sont venus jouer les troubles fêtes à Montréal.
Ben, c'est pour dire que ce tournoi-là, quand il est au Canada, renfloue un peu les coffres de la fédération. Hein. Donc, on écoute peut-être un petit peu plus ce que le Canada a dit. Jonathan, en terminant, vas-y, ton podium.
Je termine juste ce que vous venez de dire, messieurs, avant d'y aller avec mon podium. C'est que le championnat du monde senior est très payant pour l'IHF grâce aux clubs européens. Mais le mondial junior, ce sont les États-Unis et le Canada qui sont les vaches à lait pour l'IHF. Donc, je sais bien qu'ils aient un mot à dire quand même sur ce genre de réglementation. Messieurs, mon podium, je vais faire différent parce que je ne peux pas dire la même chose que Guillaume. Je vais y aller avec les États-Unis même si le tournoi se joue au Canada, simplement parce que je pense que sur un match de médaille d'or, un Trey Augustin pourrait faire la différence. J'y vais pour ça, mais honnêtement, ça va se jouer à l'émotion. J'espère une finale comme ça, surtout en sol canadien, parce qu'une finale Canada-États-Unis en Europe, c'est pas nécessairement la même émotion, la même passion qu'une finale Canada-États-Unis au Canada ou aux États-Unis. Donc, j'espère vraiment que ce sera ça. Puis moi, j'irai avec la Suède en troisième, simplement parce que j'ai l'impression que ça reste l'équipe européenne la mieux nantie dans ce tournoi.
Les gars, merci d'avoir été là aujourd'hui avec moi pour parler de tout ça. On va suivre le déroulement. On va revenir là-dessus par la suite au balado parce que en janvier. Parce que là, on prend une petite pause de balado. Hein? Les deux prochaines semaines, savez-vous quoi? C'est Noël, joyeux Noël ou peu importe les fêtes, joyeux temps des fêtes, peu importe ce que vous célébrez. Donc, la tasse de café va prendre une petite pause de 2 semaines. On va être de retour le 8, exactement. Oui, le 8 janvier pour notre prochain balado. On va revenir là-dessus puis on verra ce qui va s'être passé d'ici là. Il devrait y avoir quelques nouvelles dans la Ligue nationale de hockey. On verra bien quel entraîneur-chef aura perdu son poste d'ici là parce que la guillotine...
Oiseau de malheur.
Écoute, la guillotine se promène un peu partout là, présentement. On est en train de les filer, j'ai l'impression. Les gars, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Chers auditeurs, soyez prudents sur les routes, dans les célébrations durant le temps des fêtes. Et surtout, profitez-en, amusez-vous. On vous souhaite joyeuses fêtes. On vous souhaite aussi, on va vous souhaiter une bonne année parce que ça va être commencé. On se souhaitera le 8 janvier aussi pour notre prochain épisode. Merci d'avoir été à l'écoute et on se reparle très bientôt.